la Côte d'Ivoire.
Connais pas le Ghana.
Et à la Côte d'Ivoire d'un côté et au Kenya de l'autre, va encore aggraver la situation dans les régions concernées. La mise en concurrence de systèmes agricoles aux compétitivités totalement asymétriques quant au prix, générée par l'accumulation des accords de libre-échange, n'a pas pour seul effet l'éviction des producteurs les moins compétitifs. Autrement dit, il n'y a pas seulement ceux qui n'y arrivent pas dégagent, quoi. Elle rend d'autant plus difficile la mise en œuvre de politiques visant à protéger les productions jugées vitales ou stratégiques et mises en danger par cette compétition internationale féroce. C'est l'expérience de la Colombie à propos de la guerre des frites. J'explique. Depuis la signature d'un accord commercial entre l'Union européenne, la Colombie et ses voisins, le Pérou et l'Équateur, en 2013, les frites surgelées bon marché belges, néerlandaises et allemandes déferlent en Colombie. Colombie, qui est l'un des pays qui est la patrie de la pomme de terre. Pour protéger la production locale de pommes de terre, Bogota a introduit une petite taxe douanière de 8%. À la demande de l'industrie agroalimentaire européenne, Bruxelles a décidé de poursuivre la Colombie devant l'OMC et a gagné. La Colombie, dont sont originaires tant de variétés de pommes de terre, est sommée de supprimer cette entrave au commerce et donc d'aggraver sa dépendance aux importations en provenance de l'UE, quitte à voir ses producteurs locaux disparaître. Dans ce monde merveilleux du libre-échange, une frite industrielle réfrigérée qui parcourt 10 000 km a plus de valeur qu'une pomme de terre locale. Alors les exemples, dit cet article de Maxime Combes, pourraient s'enchaîner sans fin.
Le libre-échange qui nous est inventé est une véritable arnaque.
C'est grave, oui.
C'est une arnaque. Le libre-échange est une arnaque.
Bah, c'est pas tellement...
Bah si. Si.
Oui, c'est-à-dire qu'avec les règles actuelles du commerce, l'Union européenne et les autres États ont perdu d'une part leur souveraineté alimentaire, c'est-à-dire le droit à définir leur politique agricole et alimentaire sans nuire aux pays tiers, tel que ça a été défini par le mouvement paysan international La Via Campesina en 2003. La souveraineté alimentaire, qui est donc un droit et un devoir, n'est pas à confondre avec l'autosuffisance et encore moins avec une capacité d'exportation. Mais oui, nous avons perdu la décision, puisque c'est les grands groupes, les grands groupes agroalimentaires, enfin l'apport-export, qui décident. Je termine cet article, je vais reprendre sur autre chose ensuite, mais plus proche de nous, ce qui est grave également, c'est que c'est un processus d'internationalisation et de mise en concurrence des systèmes agricoles qui conduit immanquablement à générer une pression à la baisse sur les prix et les normes d'un côté et à mettre en danger des écosystèmes et le climat de l'autre. Immanquablement, car les producteurs pour survivre sont conduits à devoir effectuer des économies d'échelle, intensifier démesurément les productions, accroître l'utilisation d'intrants, engrais et pesticides, mais aussi accepter un découplage entre la production et la commercialisation et un rallongement des filières. Alors les gagnants étendent leur part de marché, notamment l'agro-industrie, les perdants fournissent l'exode rural et la pression démographique sur les centres urbains des pays du Sud. L'exemple du Mexique l'atteste. Les paysans disparaissent et avec eux des productions vivrières fondamentales et la souveraineté alimentaire de régions, poussant des milliers d'entre eux à émigrer vers les États-Unis. Voilà pour ces quelques exemples. L'article poursuit en disant que c'est pas une fatalité, que les appels des agriculteurs européens à être protégés de la concurrence déloyale sont légitimes, mais ça ne saurait justifier des mesures unilatérales qui viennent aggraver la situation agricole des pays tiers. Quand on écoute la FNSEA et le gouvernement, ça donne le sentiment qu'ils souhaiteraient continuer à exporter les productions françaises les plus compétitives, souvent les plus nocives pour l'environnement et à l'origine des déstabilisations des marchés agricoles des pays du Sud, et protéger celles qui pâtissent de la concurrence. C'est pas tenable. Quelques mesures miroirs, par ailleurs quasiment impossibles à mettre en œuvre, n'y suffiront pas. C'est un réexamen en profondeur des politiques commerciales qui est nécessaire. Au mi-temps des années 2000, les mouvements paysans de plusieurs pays du Sud ont bloqué les projets de libéralisation complète des marchés agricoles de l'OMC. Il est temps de refermer cette parenthèse du libre-échange qui détruit les régulations publiques et livre l'agriculture aux seules forces du marché et de l'agro-business. Et c'est possible, il s'agit d'organiser ce commerce par des régulations qui garantissent la durabilité, l'équité et la sécurité alimentaire, garantir la rémunération juste des agriculteurs, protéger les droits des consommateurs, réduire l'impact écologique et sanitaire de l'agriculture. Voilà qui exige des régulations publiques fortes, ici et dans les pays tiers, que les accords de libre-échange empêchent le plus souvent. Ceux en cours de négociation doivent être abandonnés et ceux en vigueur réexaminés à cette aune. Voilà la leçon qui devrait être tirée de la mobilisation agricole, dit M. Maxime Combe. Donc, j'ai pas résisté à citer la majorité partie de ce qu'il écrit, et dans le Monde du vendredi 1er mars. Je suis content qu'il y ait un journal comme Le Monde, Le Figaro, vous faites peut-être aussi des choses de ce genre-là, mais je ne le lis pas, dans la page idées. Parce que ça explique pas mal de choses. C'est des gens qui sont spécialistes de ces sujets et qui nous apprennent beaucoup par rapport aux médias, mais pas aux médias télévisés exactement. Malheureusement, ces médias télévisés, enfin la presse écrite n'est plus lue que pendant 10%, 11% des gens en France, qui est quand même assez embêtant.
Oui, et je dirais, j'ai quelque chose à ajouter là-dessus, c'est que finalement. Les gagnants, c'est les financiers, c'est pas nous.
Ouais, voilà.
C'est le problème, c'est comme disait un certain François Hollande, mon ennemi, c'est la finance.
Ouais.
Donc voilà. Donc.
Et j'aurai plus tard dans la soirée l'occasion de vous parler d'un pays beaucoup plus proche, parce que là, c'est effrayant. C'est l'Espagne.
Ah. Oui, bah
là,
oui.
Là, vraiment, je suis tombé par terre à lire ce que j'ai lu.
Oui.
C'est la financiarisation des terres agricoles en Espagne. C'est un truc passionnant. J'entends pas parler de ça en France, peut-être que ça existe, mais là il s'agit d'exploitation. Enfin bon, j'en parlerai tout à l'heure.
Je vous présente Bella.
Bella,
je te présente Monsieur McCandles.
Bonjour, Bella.
Oh. C'est un sujet d'étude.
Bonsoir.
Son cerveau et son corps ne sont pas tout à fait en adéquation. Mais elle réalise des progrès à une vitesse qui dépasse l'entendement.
Dites-moi, d'où vient cette jeune femme?
Je vais vous le dire. D'autant qu'il s'agit d'une belle histoire.
Je m'appelle Bella Baxter. Il y a un monde à explorer, à sillonner. C'est notre but à tous de progresser, de grandir.
Une femme qui trace sa route vers sa liberté, je trouve ça exquis.
Tradition. lost in the nonsense. He ain't want no smoke, no violence. See, I'm soaking wet, but I will never forget this.
Petit bout du feuilleton, ça faisait déjà un moment qu'on ne l'avait pas entendu. Illuminatus, l'œil dans la pyramide. Page 82. Et à l'époque présente, plus ou moins 00005, fut convoqué dans le bureau de W, au siège d'un certain département des renseignements britanniques. C'était un 17 mars, mais étant tous les deux anglais, ni 05 ni W n'accordèrent la moindre pensée au pauvre Saint-Patrick. Au lieu de cela, ils parlèrent de cette fameuse île Fernando Poo. Les Yankees, fit W d'un ton tranchant, sont en train de se convaincre que les Russes ou les Chinois ou les deux sont derrière ce port de Tequila y Mota, le président de nouvellement auto-proclamé de Fernando Poo. Naturellement, quand bien même ce serait vrai, le gouvernement de Sa Majesté s'en moquerait éperdument. Quelle importance! Si une petite île de rien du tout comme ça passait aux mains des Rouges. Mais vous connaissez les Yankees, 05. Ils sont prêts à partir en guerre, même s'ils ne l'ont pas annoncé publiquement. Ma mission, demanda 05, transformant les légères rides crioter au coin de sa bouche en un sourire des plus engageants, consiste donc à me rendre sur l'île de Fernando Poo afin d'y découvrir les véritables orientations politiques de ce Tequila y Mota. Et si c'est un rouge, de le renverser afin que les Yankees ne fassent pas sauter la planète. C'est ça la mission. Nous ne pouvons pas tolérer une foutue guerre nucléaire alors que la balance des paiements est quasiment redressée et que le marché commun commence enfin à porter ses fruits. Donc vous prenez le premier avion pour Fernando Poo, et naturellement, si vous étiez capturé, le gouvernement de Sa Majesté n'irait avoir reconnaissance de vos agissements. J'étais certain que vous diriez ça à Fille 05, avec ironie. J'aimerais bien pour une fois recevoir une mission dans laquelle le gouvernement de Sa Majesté au grand complet se dresserait derrière moi comme un seul homme. Tu peux toujours attendre, 05. Allez, un dernier petit bout. Ça sera tout pour ce soir pour la conspiration. Okma. Ou second voyage. Au Palang, Horus et de retour. Faisons un peu de métaphysique. Le principe anéristique est celui de l'ordre. Le principe héristique est celui du désordre. En surface, l'univers apparaît, aux yeux de l'ignorant, ordonné. C'est l'illusion anéristique. En fait, cet ordre recouvre le chaos primordial, comme le nom d'une personne recouvre son être véritable. C'est le travail des savants, notamment, de mettre en œuvre ce principe de façon pratique. Et certains s'en tirent assez brillamment. Mais après un examen plus attentif, l'ordre se dissout en désordre. Et voilà ce qu'on appelle l'illusion éristique.
Aoula, viens où t'es là. Les histoires pour raconter Aoula. La vie n'est pas longue. Sinon, remettre le rhum, on passe à côté. Moi, il n'est pas le premier qui dit consommer avec modération. Bon, ok, moi, m'y consomme, sans modération, mais.
Le rhum n'a pas bon même. Le rhum n'a pas bon même. Le rhum n'a pas bon même, n'a pas bon même, n'a pas bon même. Le rhum n'a pas bon même. Le rhum n'a pas bon même. Le rhum n'a pas bon même, n'a pas bon même, n'a pas bon même.
C'est pour faire plaisir qu'il y a un goût par convivialité. Tout en connaissant que les pas bon dit tout ça pour la santé. Tellement d'insistance qu'est ou la presse point le droit refusé. Ça tit donc la roule et pas le charrette qu'elle y va râler.
Le rhum n'a pas bon même. Le rhum n'a pas bon même. Le rhum n'a pas bon même. N'a pas bon même. N'a pas bon même. Le rhum n'a pas bon même. Le rhum n'a pas bon même. Le rhum n'a pas bon même. N'a pas bon même. N'a pas bon même.
Nan d'un bon peu des gars qui étaient la fine fée des Silatéens. Dans bon peu famille parmi les amis ou amène malheur. Reste à vous tranquille dans une bouteille là ou même mal à la paix. M'a besoin la force pour travailler demain, moi m'y lève quatre.
Le rhum n'a pas bon même. Le rhum n'a pas bon même. Le rhum n'a pas bon même. N'a pas bon même. N'a pas bon même. Le rhum n'a pas bon même. Le rhum n'a pas bon même. Le rhum n'a pas bon même. N'a pas bon même. N'a pas bon même.
Hey, Gérard. Hey, moi t'es prisonnier, hein. Moi les contents, moi la gars échappé, hein. Azote, ça te les gêne. S'il n'est problème, n'est pas la solution. La vie n'est pas longue. Sinon, mettre le rond, on passe à côté. Ouais, les premiers qui disent consommer avec modération. Si, mais dis ça, ouais, avec modération. Mais il sera mieux placé dans le gâteau que la prépare autre maman. Hein? Assis, Gérard, arrête à Oudon. Si, il sera mieux placé dans le gâteau que la prépare autre maman.
Maloya Pagaya. Qui ça l'a dit? Maloya finit crever.
Qui ça l'a dit ça?
Qui ça l'a dit? Maloya n'a longtemps nous la fin botte, ça, mon noir.
Qui ça?
Ote, dis pas ça.
Mets pas trop la peau d'Agnès, t'as sali mon paletot.
charbon. Les diamants qui cartent le long, les vadresses mon boulot. De mon édit, toi, les trop gros, tu pèses 100 kilos. Moi, mi croisotte la pointe, tu manges trop bon flot. Mettons, j'ai plissé Agnès, ça danse les quartiers. Mets pas trop la peau d'Agnès, t'as sali mon paletot. Mettons, j'ai plissé Agnès, ça roule, roule, c'est gars. Mets pas trop l'essence, Agnès, ça fait l'aide ton papa. Quand y arrive ton balanès, bat pas si mon pied, t'accrases mon soulier, mon pouce va péter. Si tu danses avec Albert, ça ça pas lui trop fort. Roule vous pas trop ton corps, t'as fait mal mon pied.
Radio Libertaire de Post Non Radio Show. Radio Libertaire de Post Non Radio Show.
Je préfère ce fond sonore avec les vagues plutôt que le cri un peu sauvage des bêtes sauvages qui sont dans la jungle. J'ai une préférence même pour la vague. La vague de la mer. J'aime bien.
Ah ouais.
Oui, oui, je préfère. C'est agréable. On est. Voilà, il fait beau.
Mais dans la jungle aussi, il fait beau.
Dans le studio de Radio Libertaire.
Dans la jungle aussi, il fait beau.
Ah oui, mais c'est moins agréable.
Ah oui.
Il fait beau, il pleut.
Ah oui, ce soir, c'est un peu.
C'est humide, disons. Je peux reprendre ?
Ben, reprends.
Alors, c'est un article du Monde du vendredi 1er mars 2024. C'est Madame Sandrine Morel qui a trouvé tout ça. En fait, on a parlé donc de ce libre-échange qui détruit les régulations publiques et livre l'agriculture aux seules forces du marché et de l'agro-business. Alors, en ce moment, en Espagne, il y a une centaine de tracteurs qui ont entouré la Plaza Cibeles à Madrid lundi 26 février. Alors, les agriculteurs protestent contre la faible rentabilité de leurs exploitations, les difficultés bureaucratiques, la concurrence des pays tiers, les normes environnementales imposées à Bruxelles. Voilà, comme ici, quoi. Et par contre, il y a un autre mouvement de fonds qui se produit en Espagne, c'est l'arrivée massive de fonds d'investissement dans les terres agricoles. Alors, les terres agricoles constituent un actif alternatif à ceux du secteur immobilier traditionnel. Et vous savez, vous pouvez prendre une action sans posséder d'appartement. Vous pouvez acheter un morceau d'action qui représente une part de l'appartement et vous faites... Et vous êtes donc actionnaire d'une société civile d'investissement ou un truc dans ce genre-là, et puis vous récupérez votre mise ou pas, avec bénéfice ou pas, au bout de... Enfin bref, les prix fluctuent. Là, il s'agit de... En novembre de 2023, il y a une société qui s'appelle Atitlan, qui a racheté 800 hectares de pistachiers au groupe agricole castillan Agnobro Capital, portant à 3200 hectares les exploitations de pistachiers de sa plateforme agricole Elaya. En septembre 2023, le fonds canadien Fiera Capital, qui gère 120 milliards de dollars, c'est-à-dire 111 milliards d'euros d'actifs dans le monde, a racheté 8000 hectares d'oliviers au Portugal et en Espagne du groupe Enoliva pour plus de 300 millions d'euros. Donc, si je comprends bien, c'est déjà des surfaces qui sont gérées par des groupes, le groupe Enoliva en l'occurrence, et c'est un fonds d'investissement qui rachète. En avril, c'est le fonds américain Solom Partners, lié à l'université de Harvard, qui parvenait à un accord avec un autre investisseur, Magnum Industrial Capital Partner, pour l'acquisition de la holding de production de fruits et légumes espagnole Grainstatic, pour une somme estimée entre 250 et 300 millions d'euros. En décembre 2022, le fonds Climate Asset Management, qui est lancé par HSBC et Pollinisation, s'est rendu propriétaire de 400 hectares d'amandiers en Estrémadure. C'est une liste non exhaustive. Donc en 2023, le monde de la finance a ainsi investi près de 2 milliards d'euros pour l'acquisition de terrains agricoles en Espagne, selon la compagnie internationale de conseil en immobilier commercial CBRE. C'est le double, presque le double, des années pré-Covid, résume Manuel Valas de Albuquerque, responsable d'agribusiness pour CBRE Espagne, qui met en avant le prix relativement bas des pères espagnols, mais aussi un climat favorable, même s'il est marqué par davantage de sécheresse, de bonnes infrastructures, notamment en matière d'irrigation, des agriculteurs qui se sont professionnalisés, des exploitations agricoles de bonne taille, moins fragmentées par exemple qu'en Italie. Les terres agricoles constituent un actif alternatif à ceux du secteur immobilier, explique M. Valadas de Albuquerque. Il y a de moins en moins de sols productifs disponibles, alors que la production mondiale augmente, tout comme les besoins alimentaires. Si on ajoute les effets du changement climatique, un bon sol avec un bon accès à l'eau vaut de l'or. C'est un actif défensif qui n'est pas sensible aux grands cycles économiques, et en Espagne, les exploitations d'amandiers, par exemple, valent moitié moins cher qu'en Californie. Cette irruption des fonds s'accompagne d'une technicisation de l'agriculture espagnole. Au milieu de ces quelques 220 hectares de pistachiers plantés en plein champ ou en pépinière au cœur de la province de Cuenca et en partie destinés à la recherche agronomique, Angel Minaya confirme cette évolution. À 33 ans, ce petit-fils d'agriculteur très modeste de Castille-la-Manche a trop longtemps vu son grand-père s'user dans les champs de céréales contre quelques pesetas pour le retraiter le temps des petites exploitations familiales traditionnelles. L'agriculture doit être rentable, capable de créer de la richesse, de se professionnaliser et de fonctionner comme n'importe quelle entreprise, appliquer des économies d'échelle, se techniciser et améliorer sa productivité, déclare-t-il au Monde. Dès qu'il a eu l'occasion, l'homme a racheté les terres de son aïeul, troqué les céréales pour les vignes, ajouté des amandiers et des oliviers, introduit des techniques modernes avant de dénicher un filon, celui de la pistache, et de créer en 2016 la société Agrooptimum. Devenu le principal fournisseur de plantes pistachiers d'Espagne à partir de semences californiennes, sa société offre aussi des services de conseil et de sous-traitance allant de la transformation et du suivi de la plantation à l'entretien de l'exploitation. Agrooptimum emploie 150 personnes et a affiché près de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. La moitié de ses clients sont des agriculteurs indépendants, séduits par des promesses de hauts revenus de cette culture souvent qualifiée de nouvel or vert, tant les pistachiers s'adaptent bien au climat sec de Castille, très chaud en été, très froid en hiver. L'autre moitié, ce sont des acteurs institutionnels, grandes entreprises ou fonds d'investissement qui, ces dernières années, ont jeté leur dévolu sur les terres agricoles d'Espagne. S'ils font leur chou gras d'entreprises espagnoles qui, comme Agrooptimum ou Balam, et ses plantations super intensives d'oliviers vendus clé en main se sont spécialisées dans le conseil et les services en agriculture, les fonds d'investissement inquiètent aussi. Depuis 2019, le syndicat des organisations d'agriculteurs et d'éleveurs, le COAG, qui regroupe les petits et moyens exploitants, alerte sur un risque d'ubérisation de l'agriculture. Son conseil est simple. 6,6% des exploitations agricoles espagnoles appartiennent à des acteurs institutionnels, des grandes entreprises ou des fonds d'investissement. Elles concentrent à elles seules 42% de la valeur de la production agricole du pays. Sur le terrain, ce phénomène s'est traduit par la réduction en 10 ans de 20% du nombre d'agriculteurs, alors que la surface agricole a augmenté dans le même temps de 10%. Et ce mouvement risque de s'accélérer, ne serait-ce que parce que l'âge moyen des agriculteurs en Espagne est de 62 ans. On a le même problème en France avec l'âge moyen des agriculteurs, je crois. Si le nouveau modèle d'oligopole agricole s'impose, l'Espagne avance vers une agriculture sans agriculteurs, craint José Luis Miguel, directeur technique de COAG. Le modèle traditionnel, celui de l'exploitant qui prend toutes ses décisions, est sur le point d'être remplacé par celui de salariés agricoles pour de grandes corporations agroalimentaires, concentrant la production et la richesse sur le modèle des États-Unis. Déjà, dans le secteur porcin, le modèle des fermes intégrées a pris le dessus sur celui des éleveurs locaux indépendants et des coopératives et représente 75% de la production. Les entreprises intégratrices, ce sont de grands groupes qui fournissent cochons de lait, fourrage et soins vétérinaires. À charge pour les éleveurs de respecter le délai pour l'engraissement et gérer les purins. Pour les éleveurs, fini les aléas du marché et de l'inflation, la vente est garantie à un prix fixé à l'avance, le risque zéro et les quantités vendues compensent en partie le montant payé par cochon, qui est relativement bas. Ce modèle est étendu aussi dans le secteur de la volaille et avance dans les cultures végétales, souligne José Luis Miguel. L'agriculteur perd le contrôle de son entreprise. Sur le bord des routes de campagne d'Espagne, au pied de champs d'oliviers d'Andalousie, de vignes d'Estrémadure ou de vastes étendues de céréales de Castille, la Manche, les pancartes de Castille-la-Manche, pardon, les pancartes à vendre sont légion. Producteur de melons et de pastèques dans un hameau près de Molina de Segura, dans la région de Murcie, Manuel Custillas a vu comment certains agriculteurs ont vendu leur exploitation et sont restés comme gérants, soit parce qu'ils étaient incapables de trouver les financements pour se moderniser, soit parce que leurs enfants ne voulaient pas reprendre l'exploitation. Alors l'agriculteur en question vend sa production, lui, sur 3 stands dans la banlieue de Madrid, seule façon de contourner la pression sur les prix exercée par les groupes comme Bolo. Alors, Marc Centenaire, appartenant à la famille Vercher, les grands exploitants agricoles Frutas Bolo est symptomatique des mouvements de concentration qui s'opèrent en Espagne, comme l'appétit des fonds d'investissement. Fin 2022, ce groupe valencien, spécialisé dans la production de melons, a été racheté pour 300 millions d'euros par le fonds d'investissement international Freeman Capital. Frutas Bolo a rejoint son conglomérat, The Natural Fruit Company, qui depuis 2019 a absorbé 6 compagnies agricoles familiales. Après avoir été contrôlé par le fonds GPF et Black Label Investment jusqu'en 2021, The Natural Fruit Company est à présent détenu à 76% par Freeman Capital. 4500 employés sur 3 continents, le groupe a réalisé plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Alors, selon le type d'investissement, les stratégies des fonds divergent. Les fonds de pension et les compagnies d'assurance optent pour le buy on lease back. Ils achètent la terre avant de la mettre en location en espérant un retour sur investissement de 5 à 8% à long terme, c'est-à-dire sur 20 ou 30 ans ou plus. Les fonds 5 à 8%, c'est du par an, hein. Les fonds d'investissement et de capital risque recherchent, eux, des rentabilités de l'ordre de 8 à 12% à moyen terme, c'est-à-dire 6 ou 7 ans, en misant sur des projets industriels ou de prise de participation. Quant aux cultures, l'agriculture de rotation, c'est-à-dire les tomates, les pommes de terre, les carottes, est remplacée. au profit de plantes ligneuses, amandiers ou oliviers, qui, comme les pistachiers, représentent un fort retour sur investissement. Dans ce modèle, le choix des investissements est motivé uniquement par des intérêts spéculatifs. Comment ?
Non, rien.
Il menace donc la diversification des cultures et présente un risque en matière de sécurité et souveraineté alimentaire, avertit M. Miguel. Si toutes les cultures parviennent à se techniciser et à devenir rentables, elles auront leur place, veut croire M. Minaya. Mais face à un accaparement des terres et une financiarisation de l'agriculture qu'ils perçoivent comme une menace, les membres du syndicat COAG ne voient qu'une solution pour ne pas perdre le contrôle de leur travail en restant compétitifs, la création de grandes coopératives. Bon, on voit que d'abord il y a le modèle américain dont on n'a pas parlé, qui semble exporter ce qui vient de se passer là en Espagne. Et puis ensuite, donc, ça n'est pas qu'un problème d'agriculture aux forces du marché et de l'agrobusiness. Il y a aussi maintenant la décorrélation complète entre les besoins réels et puis ce qui se passe, quoi. Si une culture est plus rentable qu'une autre, on la prend sans s'occuper de savoir si au niveau alimentaire, on va pouvoir satisfaire les populations. Ça commence à venir un peu, disons amusant. Pour rester léger.
Est-ce que c'est fini ?
Yes, sir. C'était okay. Un peu long, je suis désolé. Mais c'est tellement...
C'est oui, tellement dingue, je sais.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, je sais que c'est... que là, on assiste vraiment à une...
C'est une révolution, en fait.
Un accaparement des terres.
C'est une révolution.
Par des groupes, etc. Et que...
Moi, je fais que présenter les choses comme elles sont, c'est déjà pas mal. Ensuite, au pouvoir, normalement, d'orienter les choses de façon à ce que ça se passe de façon qu'on puisse encore manger, quoi. En gros, quoi. Moi, je veux bien manger que des pistaches jusqu'à la fin de ma vie, mais ça risque de diminuer sérieusement mon espérance de vie.
Chris Roy-Jacker vous attend dans votre bureau.
Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer ? Ah oui, lui aussi mis à jour.
C'est ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing.
Mode sobriété activé.
Ouais, désactivation.
Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun ?
Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement.
J'ai essayé de l'éteindre. C'est pour ça que l'Android se défend.
Désactivation !
Il enfreint la directive 1.
On a localisé l'Android.
Vous voyez ça ? Il s'est pas laissé faire, le gars.
Hé, venez voir par ici !
Je comprends pas. Pourquoi construire un vaisseau spatial ? Qu'est-ce que Jun Cho a fait à ce robot ?
Sa fille soupçonnait Jun de se prostituer.
Regarde ce que je vois en thermique.
Vous avez des prostituées humaines ?
Rien que du synthétique, mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur ?
C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot.
On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté.
Écartez-vous !
Missile !
J'arrive, Aline !
Insectes flottant au bord
rappelle-toi de l'été où un jour ma divine nos destins sont mêlés ont planté la racine comme un poison violent comme un trait d'héroïne un grand soleil brûlant dans un ciel grenadine qui brûle et se consume doucement d'où je suis j'entends ton cœur qui
aussi bat très violemment et notre esprit aussi bat violemment. C'est la fin de cette émission. Bonsoir, au revoir. C'était The Post Non Radio Show.
Ah, mais c'est passé vite.
Tu trouves?
Ah oui.
Oh, t'as failli t'endormir.
Plutôt que d'habitude, là.
Oui, bah oui, parce qu'on a surchot.
Et c'est l'heure du disque tampon Radio Noise. Ensemble, Universe. Salut, bye bye. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Henrik.
Pour d'autres aventures radiophoniques. Ciao.
On vous embrasse.
S-Team Records in the building. Sure Shot Radio Show.
S-Team Records, let's go to Sure Shot Radio.
Sure Shot's Radio Show.
Sure Shot's Radio. Get it. Sure Shot's Radio Show. Ha! Huh?
Sure Shot's Radio Show. That's what it is. Bang.
DJ C. Kill.
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 DJ 5.
DJ 5.
DJ 5.
DJ 5.
DJ 5.
DJ 5.
It's DJ Ligo from the Snow Goons. You're listening to the Sure Shots Radio Show. Every Friday night at midnight, only the real hip-hop. You know, the S-Team Records team. DJ 5, C-Cal and Numax. You know how we do, man. Peace.
Yo, yo, this is Signature repping the Snow Goons. You're now checking out the Sure Shots Radio every first Friday at midnight. 10 hours of pure hip-hop live and direct with the DJs, DJ 5, Numax, and C-Kel. S-Team Records, salute. What up, this is Sick Nature, repping the Snow Goons. You're now checking out the Snow Goons special, brought to you by DJ 5, C-Kel, and Numax. Sure Shots Radio, real hip-hop in your face. Boom.
This is your boy, man. Y'all know what it is. Mike Supreme, the Beast, Rough Riders, Four Seal Collective, Shottown, stand up. And you're not tuned in to Sure Shot Radio with DJ 5 and DJ C-Kel every first Friday at midnight. 10 hours of non-stop mixing with the best in hip-hop, reggae, and dancehall. S-Team Records, let's go.
Yo, what it do? It's your boy Big Sty, Mr. Never Quit, Never Stop. Chillin' with my boy DJ 5 and DJ C. Kel. You know what time it is. Sure Shot Radio Show. Every first Friday at midnight. 10 hours of non-stop hip-hop. Live mixes, hip-hop, reggae, dancehall, baby. S-Team Records in the building. We going in this year, boy. Holla.
Yo, what up? This Jack Deuce, the new moon. You know what it is. Rocking with my dog DJ C-Kel. Sure Shots Radio Show. Ha!
What's going on? Rough Riders in the building. It's the kid Drew James, and I'm kicking it with DJ C-Kel. Sure Shots Radio Show, baby. Let's get it popping.
Yes, the girl Shella the Blaze, and you listening to Sure Shots Radio Show.
Yeah, what up? This Jack Deuce. Kicking it with DJ 5. You know we grind for our paper. Let's get it cracking. Sure Shots Radio. Yeah.
C'est l'émission Sure Shots Radio comme tous les premiers vendredi du mois. Si t'as pas compris, Sure Shots, DJ CK, DJ 5, DJ Numax. Y'a le Dabou qui est là. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est venu voir comment ça se passe. Voilà. Après 15 ans de 35 ans, on sait plus trop d'exercice, il est venu voir. On attend peut-être Max aussi, le pianiste.